France Musique. Ciné Tempo, une émission en partenariat avec le mensuel Positif.
Ciné Tempo. Par Thierry Jousse. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ciné Tempo. Aujourd'hui, nouveau Star Wars oblige, voici venir le premier épisode d'un diptyque consacré à un compositeur légendaire, j'ai nommé John Williams, avec, pour commencer, une ascension très musicale.
Thank you.
démarrer ce premier épisode de Cinétempo consacré à John Williams, cette très belle pièce symphonique, à la fois lyrique, majestueuse et par moments aussi, et surtout au début d'ailleurs, presque pastorale, une pièce intitulée comme le dernier Star Wars, The Rise of Skywalker, en français l'ascension de Skywalker, qui est en salle depuis mercredi dernier et que peut-être certains ou certaines d'entre vous ont déjà vu. Vous le savez sans doute, depuis le début de la saga Star Wars, John Williams est de la partie. Et alors qu'on en est au 9e et dernier épisode de la série, John Williams est toujours là, et bien là. Il faut bien avouer, quoi qu'on pense de cet ultime avatar de la guerre des étoiles, il n'est sans doute pas le meilleur. Il faut quand même avouer que la partition de John Williams, de l'ascension de Skywalker, est très réussie, comme si John Williams, parce que pour ce qui sera peut-être son dernier tour de piste, et il a 80, bientôt 88 ans, avait mis toutes ses forces dans la bataille pour proposer une sorte de feu d'artifice en forme de récapitulatif de ses obsessions symphoniques. Alors parmi les partitions les plus célèbres du grand compositeur américain, donc qui, je le disais, aura 88 ans le 8 février prochain, figure évidemment celle qu'il a composée pour une autre saga tout aussi célèbre que celle de Star Wars. Il s'agit bien sûr de celle d'Harry Potter. Comme toujours, John Williams y a mis toute sa science de l'orchestre symphonique imprégné de toute la tradition classique. Il faudrait faire le compte des influences de John Williams. Enfin, il y en a beaucoup. Ça va de Prokofiev à Mahler, en passant par Wagner. Et puis aussi, évidemment, l'héritage du son hollywoodien des années 30-40 et le style particulier à John Williams, sur notamment son sens mélodique. En voici donc un bel exemple, à la fois lyrique, là encore, et un peu plus épique, on pourrait dire, The Chess Game, le jeu d'échecs, avec des moments d'ailleurs presque un peu dissonants, extrait de la bande originale donc du premier film de la série Harry Potter à l'école des sorciers en 2001.
Thank you.
France Musique dans Cinetempo Love Good, un extrait musical de l'avant-dernier film de la saga Harry Potter. Harry Potter et les reliques de la mort, pardon, partie 1. Donc c'était en 2010, un extrait musical qui cette fois n'était pas signé par John Williams, mais par un de ses possibles héritiers, le français très implanté à Hollywood. J'ai nommé Alexandre Desplat, bien sûr. Un Desplat donc qui reprend, je le disais, en 2010 avec un certain brio le flambeau de la saga Harry Potter, en amenant d'ailleurs une petite touche, ou plusieurs petites touches personnelles. Je pense en particulier à cette utilisation très personnelle, mais assez discrète, des unissons de flûte qu'on retrouvait d'ailleurs dans un thème que j'ai diffusé la semaine dernière, The Ghostwriter de Polanski par exemple, mais qu'on retrouve également ici, mais aussi évidemment sur le plan mélodique, où on reconnaît que Desplat est assez, un peu différent quand même de John Williams notamment. Alors s'il adore Maurice Jarre ou Georges Delerue, Alexandre Desplat a toujours clamé son admiration pour ce grand symphoniste qu'est John Williams. Et d'ailleurs, si on veut absolument citer d'autres héritiers du maître, on peut aussi penser à Michael Giacchino, par exemple, ou à Howard Shore, notamment pour une autre grande saga, celle du Seigneur des Anneaux, sauf que Howard Shore est un peu moins, disons, porté sur la dimension mélodique, peut-être, que John Williams. Alors, on le verra dans le deuxième épisode de ce diptyque, samedi prochain, donc consacré à John Williams. Le compositeur n'a pas toujours été le symphoniste qu'il est devenu. Il a même commencé comme pianiste de jazz, mais ça c'est une histoire que je raconterai plutôt donc la semaine prochaine. C'est dans la première moitié des années 70, quelques années seulement avant l'apparition de Star Wars, que John Williams a commencé à utiliser vraiment l'orchestre symphonique comme un instrument à part entière, notamment dans une série de films catastrophes qui seront d'énormes succès à l'époque, vous en souvenez peut-être, dans l'ordre L'Aventure du Poséidon, Tremblement de Terre et surtout en 1974 La Tour Infernale, peut-être le meilleur film du genre, La Tour Infernale, dont je vous propose d'écouter le thème principal. Thank you. sur France Musique, le grandiose thème principal de la Tour Infernale, en 1974, qui y anticipe parfois d'une huitaine d'années la bande originale de E.T., par exemple, comme quoi il y a une continuité conceptuelle chez Williams qui est indéniable. Un thème donc signé par le compositeur John Williams. Tout l'univers d'ailleurs de ce compositeur est déjà là, prêt à exploser aux oreilles du grand public, grâce notamment à Steven Spielberg, bien sûr, parce que dès 1974, l'année même de la Tour Infernale, Spielberg fait appel à John Williams pour la partition de son deuxième long métrage, Sugarland Express, qui ne sera pas, loin s'en faut, son plus grand succès, ni d'ailleurs à l'un comme à l'autre. Mais c'est l'année suivante, en 1975, que Steven Spielberg et John Williams scellent véritablement leur collaboration, qui sera incroyablement féconde et pérenne. Le film, on le sait, sera un énorme succès, malgré finalement au départ un budget encore assez modeste. Quant à la partition de John Williams, elle est vraiment marquante, en particulier dans son incarnation rythmique qui flirte parfois même avec le Sacre du printemps de Stravinsky. Avec cette musique, John Williams se propulse d'un seul coup au premier rang des compositeurs de sa génération. Il gagne l'amour du grand public, mais également un Oscar, son premier Oscar en tant que compositeur à part entière. Voici la musique que John Williams a composée pour La Grande Chasse aux Requins dans les Dents de la Mer, ce qu'on appelle en bon français un must. We'll be right back. vous l'avez peut-être reconnu, surtout au début du morceau, c'était un extrait, la bande originale du premier Jurassic Park en 1993. C'était plus précisément d'ailleurs la musique du générique de fin, Jurassic Park, qui est évidemment aussi un autre des très grands succès de Steven Spielberg, avec une partition signée donc par un John Williams au fait de sa gloire, déployant les fastes de son inspiration épique.
Cinetempo, Thierry Jousse, France Musique.
Alors dans l'œuvre abondante de John Williams, on trouve évidemment bien d'autres musiques de films fameuses. On n'en fera d'ailleurs pas le tour, ni aujourd'hui, ni samedi prochain. Ça serait beaucoup trop vaste, énorme œuvre derrière John Williams. Donc on trouve donc beaucoup de musiques de films fameuses, avec ou sans Steven Spielberg ou George Lucas, mais aussi des traces d'une inspiration parfois assez différente de l'image grandiose du compositeur. Et si on cherche un peu dans sa longue filmographie et discographie d'ailleurs, ce que j'ai fait pour préparer cette émission, on trouve par exemple quelques morceaux à consonance asiatique, ce qui peut paraître assez surprenant au regard du style habituel de John Williams. Mais comme tous les grands compositeurs de musique de film, Williams a plus d'une corde à son arc stylistique. Voici un très bel exemple avec ce Going to School, tiré de la BO de Memoirs of a Geisha en 2005. Un John Williams devenu, par la grâce d'un coup de baguette magique, totalement chinois. Thank you. un extrait d'une autre partition de John Williams influencée par l'Asie. C'est celle de 7 ans au Tibet, le film de Jean-Jacques Hano avec Brad Pitt en 1997. Une sorte de biopic, on pourrait dire, d'un alpiniste autrichien qui essaye de gravir une haute montagne en Himalaya. Enfin, il y a des connotations historiques assez importantes dans ce film que je vous passe parce qu'on n'a pas le temps. Le soliste que vous entendiez alors dans un traitement assez particulier du violoncelle, c'était tout simplement Yo-Yo Ma, le grand Yo-Yo Ma, grand violoncelliste qui a collaboré d'ailleurs à plusieurs reprises avec John Williams, notamment pour la liste de Schindler, qui est une partition importante de John Williams qu'on n'entendra pas aujourd'hui. Mais puisque je fais à nouveau allusion à Steven Spielberg, on va quand même tout de même y revenir. On y reviendra d'ailleurs un peu aussi la semaine prochaine, avec cette fois-ci une reprise d'un des thèmes les plus célèbres de John Williams. J'y fais allusion d'ailleurs tout à l'heure, c'est celui de E.T. qui a été un immense succès, tant sur le plan musical que sur le plan cinématographique. Et ce thème de E.T. a été repris parfois, en particulier en solo, par un compositeur de musique de film et également un arrangeur hors pair, mais également pianiste de jazz. Il s'agissait de Christian Gobert, qui cette année, en 2019, a repris dans son album Ligne Sud, musique de film et jazz, où en général, la plupart des morceaux sont plutôt interprétés en trio ou alors parfois avec aussi une chanteuse. Cette fois, c'est du piano solo et franchement, c'est très réussi. Thank you. résonance du piano pour cette belle version de Christian Gobert, donc du thème de E.T., un thème de, bien sûr signé John Williams à l'origine. C'était extrait de l'album Ligne Sud, musique de film et jazz en 2019, un album assez remarquable que je vous conseille d'écouter si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire. J'en avais déjà déjà parlé dans Ciné Tempo. Alors pour continuer, presque terminer ce premier petit voyage dans l'œuvre de John Williams, encore trop court évidemment, quelque chose d'un peu particulier mais qui lui a donné quand même beaucoup de célébrité, c'est le travail d'orchestration et de direction d'orchestre qu'a effectué John Williams sur la version filmée, la version cinéma de la comédie musicale Un violon sur le toit, qui avait été un grand succès à Broadway et qui a été adapté 2 ans plus tard en 71 donc par Norman Jewison, avec notamment dans le rôle principal Chaim Topol, donc qui chante beaucoup dans le film. Et puis donc la musique de Jerry Bock, les paroles de Sheldon Harnick et cette orchestration, ce travail donc de John Williams, avec également un soliste de luxe. On a parlé de Yo-Yo Ma tout à l'heure et il y a Isaac Stern au violon, c'est lui le violon sur le toit, donc dans l'extrait que vous allez écouter. C'est cet extrait qui s'appelle Chava Ballet Séquence, ou en français Tévier, et le violoniste. Et pour ce travail d'orchestration et d'arrangement, en fait, John Williams a obtenu son premier Oscar. J'ai parlé de celui qu'il a obtenu pour Les Dents de la Mer, c'était après, mais c'est son premier Oscar en tant qu'adaptateur et orchestrateur.
Little bird, little traveler, I don't understand what's happening today. Everything is all a blur. All I can see is a happy child, the sweet little bird you were. Chavale, chavale. Little bird, little chavale, you were always such a pretty little thing, everybody's favorite child. Gentle and kind and affectionate, what a sweet little bird you were. Chavale, chavale.
We're going a long way. time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay. But our love is here to stay.
Cadeau de Noël avant l'heure dans Ciné Tempo, c'est cet extrait de la bande originale du film de Vincente Minnelli, An American in Paris, un américain à Paris, avec bien sûr Gene Kelly en soliste, très subtil, Love is Here to Stay, un thème fameux de George and Ira Gershwin. Pourquoi c'était petit extrait? Bon, d'une part, écouter du Gene Kelly, ça fait jamais de mal, mais c'est également pour célébrer une production qui est reprise en ce moment même à Paris. Elle avait été créée en 2014, donc au Châtelet. C'était une première mondiale. Depuis, elle a tourné dans beaucoup de pays. C'est la production donc de Un Américain à Paris, version scénique, adaptation en réalité du film, puisque le film est un travail original qui n'avait pas été créé auparavant à Broadway, comme beaucoup d'autres comédies musicales. En tout cas, voilà, si vous êtes à Paris, si vous trouvez encore des places, parce que c'est peut-être totalement complet jusqu'au 28 décembre, vous pouvez aller voir avec grand plaisir. Ça a été mon cas il y a pas très longtemps. Cette production magnifique, donc qui améliore presque, je dirais, la version originale filmique. Pourtant, c'est quand même un film signé Minnelli. La mise en scène, donc, elle est signée Christopher Weldon. C'est Ryan Steele qui incarne le personnage principal de Jerry Mulligan, incarné dans le film donc par Gene Kelly. Et puis c'est le chef d'orchestre Jesse Warkentin qui dirige l'orchestre. C'est vraiment un enchantement dans la salle du Châtelet tous les soirs. Donc je vous le recommande absolument si vous avez encore une fois la possibilité de trouver des places. Et puis je profite pour faire une autre petite recommandation, un petit peu de publicité pour un ciné-club dont on est partenaire, dont Ciné Tempo et France Musique sont partenaires, celui que j'anime tous les dimanches, enfin pas tous les dimanches, tous les 15 jours à l'Arlequin, donc dans le 6e arrondissement à Paris, rue de Rennes plus précisément, près du métro Saint-Placide. Je sais pas si ça a beaucoup d'intérêt de donner la station de métro en ce moment, mais bref, demain j'y présenterai un autre film musical, de très beau film de Vincente Minnelli. Ça s'appelle Le Chant du Missouri, Meet Me in St. Louis, et c'est avec Judy Garland, donc très beau film. Et c'est à 11h à l'Arlequin si vous avez les moyens de vous y rendre.
Ciné Tempo, la BO de la semaine.
Alors, pour terminer cette émission, bah bien sûr, la BO de la semaine. Alors, la BO de la semaine, c'est un énorme coffret cette semaine qui concerne Ennio Morricone, 16 CD. Ça s'appelle tout simplement Ennio Morricone 1964-1975. 16 CD que j'ai pas le temps, évidemment, de vous détailler. Il y a beaucoup de choses dans ce coffret. Énormément des choses rares, des choses très connues, des choses, évidemment, qui concernent Sergio Leone ou Quentin Tarantino. Mais également un très beau livret, d'ailleurs, avec un entretien inédit qu'a réalisé Stéphane Lerouge avec le maestro Morricone, qui vient de fêter ses 91 ans. Bon, pour fêter ça, mais on y reviendra plus longuement au mois de janvier, je vous propose d'écouter un thème assez rare d'une bande originale reprise intégralement dans ce coffret. La classe ouvrière va au paradis, 1972, Elio Petri, le thème s'appelle Inventario. Extrait de la bande originale de La classe ouvrière va au paradis, une bande originale assez rare finalement d'un film d'Elio Petri qu'on retrouve intégralement dans ce coffret qui formidable qui vient de sortir chez Universal il y a quelques semaines, quelques jours on va dire, Ennio Morricone 1964-2015, vous saurez tout sur Ennio Morricone et nous y reviendrons, je le disais, l'année prochaine. Merci à ceux qui m'accompagnaient aujourd'hui, Audrey Guélil, Emmanuel Rose, Dorothée Gol pour la page Ciné Tempo sur le site francemusique.fr, Déborah Dagobert qui a fait des merveilles et Bruno Rioux-Maillard également, bien sûr. La semaine prochaine, la suite de John Williams.
À réécouter sur francemusique.fr.